journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Moins de dons, plus de bénéficiaires. Les banques alimentaires craignent de ne pas pouvoir absorber le choc de l'inflation. Les stocks se remplissent plus difficilement et la demande explose déjà par endroits, comme dans les Hauts-de-Seine où notre reporter s'est rendu. Un professeur devant chaque classe à la rentrée, ça semble être une évidence, mais ce sera pourtant l'un des premiers défis de Pap Ndiaye. Le nouveau ministre de l'Éducation fait connaissance cette semaine avec les syndicats enseignants. Au sommaire aussi, les États-Unis endeuillés par une nouvelle tuerie dans une école. 19 élèves tués cette nuit au Texas. Le sud ukrainien risque-t-il l'annexion russe comme la Crimée avant lui? Et puis vous découvrirez un nouveau sport, enfin si on peut parler de sport, la cani-trottinette.
Et à 7h50, l'invité d'Alexandra Ben Saïd ce matin est le lauréat du prix du meilleur jeune économiste 2022, Éric Monnet.
France Inter.
Elle voit les fils s'allonger mais ont de moins en moins de denrées à proposer.
L'inquiétude gagne ces derniers jours les associations d'aide aux plus démunis. Face à l'inflation galopante, toutes sont confrontées à un redoutable effet ciseau. D'un côté, le nombre de bénéficiaires augmente et ce n'est sûrement que le début. Et parallèlement, les stocks alimentaires baissent à vue d'œil avec les pénuries, la hausse des prix. Les supermarchés sont à flux tendu et donnent moins d'invendus. William Delesseux, vous l'avez constaté à la banque alimentaire de Gennevilliers, près de Paris.
Au pied du hangar, Kamel Haddad gare sa fourgonnette aux couleurs de l'armée du salut. Cet agent logisticien vient charger les denrées qu'il distribuera dans le nord-est parisien.
Je viens, je remplis le camion, il n'y a pas de souci. Mais là, ça fait 3 semaines, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est les petits déjeuners, c'est les croissants, les pains au chocolat, les gâteaux. Et tout ça, ces derniers temps-là, ils n'en ont pas.
On va voir.
Ouais.
T'as des petits pois comme d'hab, des châtaignes, des sauces tomates, de l'eau pétillante, de l'eau plate.
Il n'y a pas de quoi composer un petit déjeuner, quoi.
Malheureusement, non, pas de viennoiserie en stock là en ce moment.
Nicolas Dubois, responsable de l'entrepôt.
Ils sont souvent aussi intéressés par des fruits particulièrement, chose qu'on n'a pas non plus à proposer en ce moment. Enfin, pas beaucoup en tous les cas, pas suffisamment, selon leurs besoins. Donc voilà.
Le fourgon repart avec des briques de lait et de la confiture. Nicolas Dubois fait le tour du stock, le constat est le même partout.
Il y a quand même une baisse évidente et encore une fois, surtout l'explosion de la demande, quoi. On a une palette là par exemple de petits pois en bocaux. Bon, on donnera 5 colis maximum, même à une très grosse association, on n'ira pas plus parce que il en faut un petit peu pour tout le monde, donc du rationnement bien sûr.
Ce matin, seuls 5 lots de fruits et de légumes seront disponibles pour 25 associations.
William Delesseux, le pouvoir d'achat, priorité affichée du nouveau gouvernement avec un texte promis dans la foulée des législatives du mois de juin. Mais il y a bien d'autres urgences à traiter, notamment dans l'éducation nationale. Le ministre Pap Ndiaye reçoit depuis hier les syndicats enseignants pour faire connaissance. Autant dire qu'il est attendu au tournant, car Sonia Princet, la prochaine rentrée scolaire est en jeu.
La rentrée de septembre se prépare maintenant, c'est même déjà presque trop tard. Alors l'urgence des urgences, c'est de s'assurer d'avoir un nombre suffisant de professeurs devant les élèves. Les concours n'ont pas fait le plein, de nombreux postes ne seront pas pourvus et le ministre n'a pas beaucoup de solutions selon Jean-Rémy Girard, président du syndicat SNALC.
La marge de manœuvre est limitée. On attend éventuellement qu'il demande une rallonge budgétaire pour essayer de recruter des contractuels pour gérer la pénurie. Mais c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Pour nous, le problème est à gérer à plus long terme, c'est-à-dire redonner de l'attractivité à nos métiers.
Notamment revalorisant les salaires, mais ce chantier sera pour plus tard. Ce que Pap Ndiaye va devoir trancher tout de suite, c'est le retour des mathématiques dans le tronc commun en classe de première au lycée. Le programme de cet enseignement est en préparation. Certains syndicats et l'association des professeurs de mathématiques, avec son président Sébastien Planchenot, réclament un report à 2023.
Avoir un programme qui va être publié fin juin pour le mettre en pratique en septembre, c'est un peu précipité et ça ne laisse pas forcément de temps suffisant, à la fois pour les collègues pour se l'approprier, à la fois pour les familles et les élèves à comprendre quels sont véritablement les enjeux de ce programme.
Au syndicat qu'il recevait hier, le ministre de l'Éducation a confirmé que le principe d'1h30 de maths en plus en première était acté, sans préciser l'année qui est encore en discussion. Les lycées attendent maintenant l'annonce officielle pour pouvoir s'organiser.
L'exécutif qui tente toujours de se dépêtrer de l'affaire Damien Abad. Après Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'en empare. En déplacement à Metz hier soir, le leader insoumis a bien précisé que lui ne nommerait jamais au gouvernement un homme accusé de violence sexuelle, sans appeler pour autant le ministre des Solidarités à démissionner. Lui était membre du précédent gouvernement. Jean-Baptiste Djebbari, qui s'occupait des transports, souhaitait se reconvertir dans le privé en tant que vice-président exécutif de l'armateur CMA-CGM. Oui, mais voilà, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, a dit non hier. Trop de risques déontologiques. Et c'est une première pour un ex-ministre, Maxence Lambrecq.
Une quinzaine de ministres ont déjà fait l'objet de réserves de la Haute Autorité au moment de leur reconversion. Michel Sapin, Sibeth Ndiaye, Laura Flessel, Benjamin Griveaux et même Édouard Philippe, quand le groupe informatique Atos l'a fait rentrer dans son conseil d'administration, Jean Castex pourrait bientôt subir le même contrôle. Des réserves, des consignes pour que la fonction ministérielle ne profite pas à l'entreprise. Dans le cas de Jean-Baptiste Djebbari, la frontière était impossible à construire, comme pour cet ancien conseiller d'Olivier Véran à la Santé, qui voulait l'an dernier piloter les affaires publiques d'un géant des EHPAD. Car ce contrôle ne se limite pas aux ministres, mais à tous leurs membres de cabinet, au patron d'administration centrale et jusqu'à ce directeur général d'un grand port français qui n'a pas pu rejoindre une société spécialisée dans le transport des denrées alimentaires. Ces incompatibilités restent rares, une dizaine ces deux dernières années. Les parlementaires y échappent. Le député Michaël Nogal, qui était vice-président de la commission des affaires économiques, vient d'être nommé directeur général de l'ANIA, principal lobbyiste de l'industrie agroalimentaire. Certains préfèrent rester au Parlement, ne pas rentrer au gouvernement pour éviter ce contrôle à la sortie.
À Grenoble, l'autorisation du burkini dans les piscines examinée aujourd'hui par le tribunal administratif. C'est le préfet de l'Isère qui l'a saisi en référé après l'adoption de cette mesure par le conseil municipal d'Éric Piolle.
7h36 aux États-Unis, la pire tuerie en milieu scolaire depuis près de 10 ans.
Des enfants évacués en urgence, des parents en larmes. Combien de fois les a-t-on déjà vus ces scènes sur le sol américain? Eh bien, le cauchemar se répète. Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu hier soir dans une école primaire du Texas. Il a tué 19 enfants et 2 enseignants avant de succomber lui aussi sous les tirs de la police. Ce jeune Américain aurait d'abord visé sa grand-mère avant de se rendre dans cette école de la petite ville d'Uvalde, très proche de la frontière mexicaine. Ce matin, un pays entier est sous le choc et immédiatement aussi le retour du débat sur le contrôle des armes à feu. Joe Biden se dit écœuré. Des voix s'élèvent aussi dans la société civile, comme au sein de la NBA, le championnat de basket. Les Golden State Warriors jouaient hier soir au Texas et ce n'est pas du match que leur entraîneur Steve Kerr a voulu parler en conférence de presse.
Je ne vais pas parler de basket, rien. Depuis que nous avons quitté la séance d'entraînement, 14 enfants ont été tués à 600 km d'ici. Et un enseignant. Et au cours des 10 derniers jours, des personnes âgées noires ont été tuées dans un supermarché à Buffalo. Des fidèles asiatiques ont été tués en Californie du Sud. Et maintenant des enfants ont été tués à l'école. Quand allons-nous faire quelque chose? Je suis fatigué, si fatigué de me présenter devant vous pour présenter mes condoléances aux familles anéanties. J'en ai assez. Pardon, je suis désolé de ces moments de silence. Assez!
L'entraîneur américain de basket Steve Kerr, alors que le bilan n'a cessé d'augmenter au cours de la nuit au Texas, nous serons en direct des États-Unis dans le journal de 8h. Les États-Unis qui tentent un nouveau coup de pression financier sur la Russie après 3 mois de guerre en Ukraine. À partir de ce matin, Moscou ne peut plus rembourser sa dette en dollars et risque donc le défaut de paiement. Sur le terrain, Kiev est bien obligé de le reconnaître. Oui, l'armée russe progresse dans le Donbass autour de Severodonetsk, l'une des dernières poches de résistance. Comme Mariupol avant elle, la ville risque d'être éliminée de la surface de la terre, selon les mots du gouverneur local. La Russie, qui tente aussi parallèlement de renforcer son emprise sur des territoires déjà conquis dans le sud, notamment la région de Kherson. Car Sylvain Tronchet, Moscou envisage sérieusement de les rattacher, ces territoires, de les annexer, comme la Crimée en 2014.
La semaine dernière, le vice-premier ministre russe, Marat Kousnoulin, s'est rendu à Kherson et Zaporijja. Le dirigeant politique a été très clair. Ces régions du sud de l'Ukraine, limitrophes de la Crimée, ont vocation à devenir russes, a-t-il expliqué, en promettant des aides aux agriculteurs locaux.
Nous appliquerons toutes les mesures de soutien que nous avons en Russie grâce au ministère de l'Agriculture. Nous contribuerons au développement de l'économie autant que possible. Nous pensons que Kherson a de grandes perspectives et une place de choix dans la famille russe. Nous invitons tout le monde à coopérer. Il ne faut avoir peur de rien. Nous allons vivre et travailler ensemble dans le futur.
Pour asseoir son influence sur les régions de Kherson et Zaporizhia, la Russie procède comme elle avait fait en Crimée en 2014, en promettant une pluie de roubles, la monnaie russe qui est d'ailleurs en train de devenir la monnaie officielle dans ces régions. Outre les subventions, la Russie va bientôt payer les retraites des personnes âgées et elle s'est engagée également à reconstruire les routes, surtout celles qui mènent vers la Russie. Pour l'instant, néanmoins, il n'est pas question d'organiser un référendum sur le rattachement, comme en Crimée. Le gouverneur de Kherson, nommé par les Russes, expliquait récemment qu'il n'y en avait pas besoin. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
L'entraîneur du PSG féminin suspendu pour un comportement inapproprié à l'égard d'une joueuse. Le club n'en dit pas plus. Tout juste sait-on que toute l'équipe a été entendue hier par les ressources humaines. De quoi assombrir encore un peu plus la saison des footballeuses parisiennes, 6 mois après l'agression de la milieu de terrain Keira Amraoui.
Et puis on découvre un nouveau sport, la cani-trottinette.
Oui, comme son nom l'indique, c'est donc l'addition d'une trottinette et d'un chien.
Oui.
C'est bien le maître qui conduit, mais c'est l'animal qui fait l'effort en tractant l'engin. Figurez-vous que cette pratique est officiellement reconnue par la Fédération des sports canins. Alors à quoi ça ressemble? Lucie Rispal a rencontré les premiers adeptes.
3, 2, 1... Ok, devant.
Lorsque Naomi n'est pas au lycée, elle pratique la cani-trottinette. Avec son curieux engin et ses deux chiens de chasse, elle attire les regards étonnés de ses camarades.
Ils rigolent parfois, ils se demandent ce que c'est. Puis bah, quand je rentre en cours... Au fait, on t'a vu hier avec tes chiens et ta trottinette, c'était quoi ce truc? Donc là, faut leur expliquer ce que c'est, puis ils font « Ah, c'est sympa !»
Rudy et Saori, ses bras calmants, la tractent à l'aide d'une laisse reliée au guidon. Elle peut aller jusqu'à 40 km à l'heure.
Ah bah, quand on fait ce genre de sport, je pense qu'il faut avoir une confiance totale en son chien devant, parce que sinon, on peut pas y arriver et... On aurait trop peur.
Après une heure de parcours physique, l'adolescente est fatiguée, mais elle se sent revigorée.
Quand je monte sur ma trotte, je me libère de tout, je pense plus à rien. Je sais que je vais partager un moment incroyable avec mon chien. C'est vraiment un moment d'évasion, je dirais, entre lui et moi, quoi.
La discipline est en plein essor depuis la pandémie. Elle fait du bien aux humains, mais aussi aux chiens. Guillaume Garin, fondateur de la marque Canem Victoria, spécialisée dans les sports canins.
Ça permet de créer une cohésion avec son chien, de l'entraîner, de faire une activité avec lui qui va être bonne pour lui et pour nous.
De son côté, Naomi est pleine de boue. Elle et ses deux amis à quatre pattes méritent bien une bonne douche.
Allez, c'est Auré, Rudy, allez.
Un reportage de Lucie Rispal. Voilà, c'est un peu comme du chien de traîneau, mais en version estivale.
J'ai l'impression que vous n'allez pas tarder à essayer, avec Simon. Je vous sens conquis. Merci pour ce journal. L'édito politique est à suivre.